Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat d'été consacré ce soir à l'inscription dans la longue histoire des rapports entre hommes et femmes en France de l'affaire Darmanin. À l'ordre du jour ce soir, peut-on maintenir l'exception française? Historiens et historiennes s'interrogent et parfois débattent âprement de ce qui apparaît à certains et à certaines comme une exception française, un rapport entre hommes et femmes différent en France que dans d'autres pays qui se seraient construit ce rapport autour des salons du XVIIIe siècle ou encore de la notion de galanterie. Une exception qui en oublie toutefois une autre, l'exclusion radicale des femmes du pouvoir pendant des siècles. Que reste-t-il de ces exceptions françaises dans notre quotidien et la contestation de la nomination que l'on connaît aujourd'hui de Gérald Darmanin à l'intérieur témoigne-t-elle d'une américanisation de la vie politique française? Ce sont quelques-unes des questions que nous allons poser à nos invités, à Éliane Viennot. Bonsoir Éliane Viennot.
Bonsoir.
Vous êtes historienne des relations de pouvoir entre les sexes, agrégée de lettres. Vous avez publié cette année le quatrième volet de La France, les femmes et le pouvoir sur la période du XVIIIe siècle entre 1804 et 1860, l'âge d'or de l'ordre masculin. Avec nous également Gloria Origi. Bonsoir Gloria Origi.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, chercheuse au CNRS et à l'Institut Nico. Vous travaillez sur l'épistémologie sociale, la philosophie des sciences, la philosophie cognitive. Vous êtes auteur, autrice récemment d'un livre qui s'intitule « La réputation ». Avec nous également, Noëlle Lenoir. Bonsoir, Noëlle Lenoir. Vous êtes avec moi en studio. Vous êtes avocate, ancienne ministre chargée des affaires européennes, membre honoraire du Conseil constitutionnel. Vous avez été la première femme au Conseil constitutionnel et vous vous êtes élevée justement dans la presse. C'était dans Le Monde, il y a quelques jours, à propos de cette affaire Darmanin. On en parlera avec vous et on espère, peut-être sera-t-il avec nous, il nous l'avait promis, mais il a été pris par une urgence journalistique, avoir avec nous Adam Nociter, correspondant à Paris du New York Times.
Aussi vrai que je crois à la force des causes justes, je pense qu'aucune cause n'est défendue justement si on le fait en bafouant les principes fondamentaux de notre démocratie. Et je le dis pour un ministre, comme je le dirais pour quelques citoyens que ce soit. Je suis aussi de là où je me place, le garant de cette présomption d'innocence. Et je le dis dans les rapports aussi que notre vie démocratique pourrait avoir avec notre vie judiciaire. Si, à partir du moment où quelqu'un est accusé, n'est pas jugé, il devient, en quelque sorte, la victime d'un jugement de rue ou de réseaux sociaux, parce qu'il y a une émotion, et je peux comprendre cette émotion parce que je partage la cause, alors s'impose le choix politique démocratique de dire celui-ci ou celle-là ne peut pas avoir de responsabilité politique.
Mais vous n'avez
notre
pas...
démocratie change de nature. Elle devient une démocratie d'opinion. Moi, vous savez, pour la France, je veux le meilleur de notre pays. Je ne veux pas le pire des sociétés anglo-saxonnes.
Mais dans le cas de M. Darmanin, vous n'avez pas hésité une seconde avant de le nommer à ce poste-là.
Mais j'ai eu une discussion avec lui parce que c'est un responsable politique qui est intelligent, engagé, qui a été aussi blessé par ces attaques. Donc, il y a aussi une relation de confiance. D'homme à homme, si je puis dire, le président de la République, un ministre nommé sur la réalité de ces faits et leur suite.
Vous avez évidemment reconnu le président Macron, c'était lors de l'entretien du 14 juillet à la télévision. Dans cet entretien, eh bien, on entend accusations, jugement de rue, émotion, démocratie d'opinion, société anglo-saxonne et enfin ce jugement d'homme à homme. Noëlle Lenoir, vous avez apprécié ce que disait le président à propos de cette affaire Darmanin?
Je dois dire que je peux pas dire qu'il m'ait inspiré parce que la tribune que j'ai rédigée, je l'ai rédigée bien avant son intervention. En revanche, je pense que au-delà de la défense d'une cause, il y a un certain nombre de pratiques aujourd'hui qui consistent systématiquement à des attaques ad hominem ou ad feminem et à vouloir déboulonner, voire même décapiter un certain nombre de gens. Et je pense que c'est une pratique qui est devenue assez répandue et c'est un glissement très dangereux. Le président de la République a parlé de confiance. Je pense que on peut critiquer, ça m'arrive de critiquer des jugements, des juridictions, mais je pense qu'en France, il y a un certain nombre d'institutions qui existent et l'accusation ne vaut pas jugement, effectivement. Et je considère que les accusations qui sont portées contre Darmanin, compte tenu des faits, je suis pas sûre qu'il s'agisse d'un viol, mais
ça,
l'opinion n'a aucun intérêt.
Voilà.
Mais l'opinion d'un certain nombre de ceux ou de celles qui demandent de le déboulonner n'a pas plus d'intérêt tant qu'on n'a pas connaissance exactement des faits et de leurs qualifications juridiques.
Eliane Viennot, lorsque vous travaillez en historienne sur justement cette longue histoire des rapports entre hommes et femmes, vous êtes une de celles, des historiennes, qui a mis en évidence effectivement cette question de l'exception française dont je parlais en ouverture de cette émission. Qu'est-ce que vous appelez vous-même l'exception française en tant qu'historienne ?
Alors j'appelle exception française le fait que la France a pris de très longue date la tête des nations masculinistes, c'est-à-dire la tête des nations qui refusaient le fait que les femmes puissent accéder au pouvoir. Je rappelle qu'en France, nous avons mis au point, enfin nous, pas nous évidemment, nos ancêtres, un certain nombre de nos ancêtres ont mis en place ce qu'on appelle la loi salique. Et nous nous sommes isolés du reste de l'Europe au XVe siècle à peu près, XIVe, XVe siècle, en érigeant en comme une sorte de droit le fait que les femmes ne puissent pas
accéder au pouvoir,
arriver sur le trône en tout cas, hériter du trône. Après, il est évident que les femmes y sont arrivées par d'autres moyens, comme régentes, en étant reconnues par les états généraux, etc. Mais nous sommes quand même les seuls à avoir produit cette juridiction, enfin cette prétendue loi, parce qu'en fait ce n'est pas une loi jusqu'au moment de la Révolution française, c'est la première constitution en 1789 d'abord, et puis 91 quand la constitution a été adoptée, qui a véritablement fait rentrer dans le droit public le fait que les femmes soient exclues, comme le dit le texte de l'époque, à perpétuité de l'héritage du trône. Et à côté de ça, la Constitution a refusé aux femmes le droit de participer à la décision aux décisions de la nation, le fait de pouvoir être élue, le fait de pouvoir voter, etc.
Ce 18e siècle, qui est aussi ce 18e siècle dont je parlais tout à l'heure en ouverture de l'émission, c'est un 18e siècle effectivement dont on dit, et en particulier l'historienne Mona Ozouf, eh bien qu'il est particulier parce que justement les rapports entre hommes et femmes auraient été, différents des autres endroits d'Europe, en particulier la question des salons, la question de la place des femmes dans la discussion intellectuelle, etc., etc. Et je crois qu'il y a des débats chez les historiennes, justement, sur cette interprétation, justement, d'une place particulière des femmes qu'on aurait laissé, d'une certaine façon, s'exprimer, alors que dans d'autres pays, ça n'était pas le cas.
Eh bien, en fait, en réalité, l'exception de ce côté-là, c'est-à-dire de l'autre côté, l'autre face de l'exception française, c'est-à-dire le fait que les femmes occupent une place relativement importante dans la vie publique, elle date de la Renaissance. Elle date pas du tout du XVIIIe siècle, elle date de la Renaissance. Elle date d'une période où pendant à peu près 150 ans, on a eu des femmes au pouvoir, notamment dans la zone francophone, et que la cour était extrêmement importante. Et donc, le XVIIIe siècle, par rapport à ça, il joue, je dirais, un rôle de refermeture, le XVIIe déjà, mais le XVIIIe siècle surtout, avec les théorisations qui ont été produites par les Lumières, qui visent à dire qu'il y a une séparation des sphères, que les hommes doivent s'occuper de la sphère publique et que les femmes doivent s'occuper de la sphère privée. Donc, il y a une histoire particulière de notre pays qui est ancienne, encore une fois, hein, d'une part une prétendue théorie, une prétendue loi qui exclut les femmes du pouvoir. Par ailleurs, une réalité qui fait qu'elles y sont relativement présentes. Bon, faudrait avoir plus de temps pour rentrer dans les détails pour expliquer pourquoi. Mais ensuite, une sorte de reprise en main, si vous voulez, et notamment par la période des Lumières, par les médecins et les philosophes des Lumières, qui ont théorisé véritablement la question de la, qui ont théorisé la séparation des sphères. Et nous avons hérité de cette production. Et ensuite, évidemment, le 19e siècle avec notamment le Code Napoléon. Mais le Code Napoléon, en fait, est une suite un peu plus musclé,
durci,
on va dire,
oui, durci,
de la législation révolutionnaire, qui véritablement coule dans le marbre l'exclusion des femmes du pouvoir.
Oui, alors justement, cette exclusion des femmes du pouvoir, vous l'avez connue et vous l'avez contredite d'une certaine façon vous-même, Noëlle Lenoir, je l'ai dit tout à l'heure, première femme au Conseil constitutionnel, ministre également, vous étiez ministre des Affaires européennes, vous êtes occupée aussi de lois de bioéthique par exemple, etc. Est-ce que vous avez ressenti cette question justement telle qu'elle est présentée par Ariane Viennot.
Bien sûr. Alors j'ai une petite nuance parce que je pense que Condorcet fait sans doute exception à la règle en ce qui concerne les philosophes des Lumières. Et puis la position de Montesquieu, enfin c'est un petit peu plus complexe, mais c'est vrai que les femmes n'ont absolument rien gagné. On pense à Olympe de Gouges, Madame Roland, à la Révolution française, ça c'est clair. La Déclaration universelle des droits de l'homme, elle était universelle pour les hommes, mais pas pour les femmes. Et donc, il y a une tradition dans ce pays, mais même dans les pays où il y a, je pense à la Reine d'Angleterre, quand on lit les romans de Jane Austen, on sent bien que Pride and Prejudice, il y avait beaucoup de stéréotypes et beaucoup de préjugés aussi sur les femmes. Donc, il y a une histoire sociale et politique, et moi, l'expérience qui est la mienne, c'est que c'est vrai que quand on arrive dans des sphères du pouvoir ou proche des sphères du pouvoir, je peux vous garantir qu'on en déguste beaucoup plus. C'est beaucoup plus difficile, en tous les cas à mon époque, d'être une femme politique que d'être un homme politique. Ça, je peux en témoigner.
Et en quoi toutes ces questions, donc qui sont importantes puisque nous avons voulu mettre cette discussion sous cet axe-là, Éliane Viennot, nous conduisent à cette affaire Darmanin, selon vous, c'est-à-dire en quoi ces questions qui sont liées au rapport entre hommes et femmes tels qu'ils se sont établis entre sphère du pouvoir et sphère privée, mais aussi peut-être à cette histoire de la galanterie dont je parlais tout à l'heure, qui aurait fait un rapport d'hommes et femmes différent en France que dans d'autres pays, eh bien conduisent-elles à cette discussion que nous avons aujourd'hui entre féministes et entre sphères du pouvoir autour de Monsieur Gérald Darmanin, mais qu'on a connu aussi très récemment dans d'autres moments, au moment de l'affaire Dominique Strauss-Kahn ou encore à d'autres moments comme celle-ci, comme ceci, Éliane Viennot.
Eh bien, pour moi, le problème, c'est que nous avons une telle ancienneté de cette culture de l'exclusion des femmes des sphères du pouvoir. Les sphères du pouvoir, c'est, on vient de parler de politique, mais pendant 7 siècles, ça a été non seulement la politique, mais ça a été l'université, le fait de ne pas pouvoir mettre un pied à l'université, le fait de ne pas pouvoir avoir accès aux métiers supérieurs, etc. Alors cette culture en France était extrêmement profonde, elle a été légitimée par les meilleurs esprits, si je puis dire, ou on peut peut-être mettre des guillemets autour, mais enfin bon, historiquement elle a été vraiment légitimée. On est très très loin du machisme ordinaire, on est dans la théorie, et on a pendant des siècles, les théoriciens de la politique ont théorisé la nécessaire mise à l'écart des femmes des sphères du pouvoir. Donc nous sommes, nous, les héritiers et les héritières de cette histoire qu'il faut revisiter, qu'il faut déconstruire, et on est presque encore au début de cette déconstruction. Si vous regardez aujourd'hui, par exemple, les manuels d'histoire ou les programmes d'histoire ou les programmes de, je sais pas moi, rien que moi je suis littéraire, hein, les programmes d'agrégation de littérature, eh bien il n'y a quasiment que des hommes dans ces livres d'histoire. Il n'y a que des hommes dans l'histoire enseignée de l'histoire de l'art. Il n'y a que des hommes dans l'histoire de la littérature, etc. Et on a beau le dire, tous les 10 ans à peu près, il y a des rapports qui le disent, il ne se passe rien, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore vraiment pris conscience, en tout cas au plus haut niveau. C'est une manière, c'est une manière gentille de dire on n'a pas encore pris conscience, mais il y a une autre manière de voir les choses qui est qu'on tient bon toujours dans les sphères du pouvoir à continuer à disséminer cette culture où il n'y a que les hommes qui comptent.
Non, mais
Noël Lenoir, vous répondre.
Bon, moi, je suis d'une génération sans doute beaucoup plus ancienne que la vôtre. Et ce qui me frappe dans la vie politique, c'est qu'il y a énormément de femmes. Moi, j'ai été maire à l'époque, il y avait 15% de femmes. Maintenant, il y en a beaucoup plus. Des associés dans les cabinets d'avocats, il n'y avait pas de femmes. Maintenant, il y en a énormément. Et je trouve que même visuellement, je suis choquée quand je vois des conseils des ministres, pas si anciens, avec une ou deux femmes, tandis qu'aujourd'hui, c'est presque la moitié, y compris en France. Et je suis pas persuadée que la France soit à clouer au pilori, parce que J'ai observé, par exemple, aux États-Unis, moi, je n'ai pas d'enfants. Eh ben, je peux vous dire que dans les milieux universitaires américains, on m'a souvent demandé si j'avais pas été attaquée. En France, j'ai jamais été attaquée parce que j'avais pas d'enfants. En Allemagne, Madame Doris Schröder, la femme de Schröder, a fait une campagne acharnée contre Angela Merkel lorsqu'elle s'est présentée, en disant mais comment pouvez-vous voter pour une chancelière, pour une politique qui n'a même pas été capable de faire des enfants. Donc le machisme existe aussi chez les femmes. Je l'ai expérimenté dans ma carrière très souvent. Et je pense pas que notre pays, qui a une tradition, vous avez raison de souligner la loi Salique, vous avez raison de souligner le rendez-vous manqué de la Révolution française, mais je pense que dans d'autres pays, les préjugés sont tout à fait comparables.
Gloria Origi, vous n'êtes pas encore intervenue. Malheureusement, Adam Nociter nous a fait savoir qu'il ne pourrait être avec nous, et c'est bien dommage parce que nous comptions justement sur lui-même pour pouvoir nous parler de cette supposée américanisation de la vie politique française autour de cette affaire Darmanin et d'autres affaires, effectivement, comme celle que nous avons connue avec Benjamin Griveaux il y a quelques mois, par exemple. Mais tout cela nous conduit tout de même à parler de votre sujet. Vous avez travaillé sur la réputation, c'était en 2015. Qui dit quoi de qui? C'était votre livre aux presses universitaires de France. Est-ce que cette question de la réputation entre en ligne de compte dans cette affaire Darmanin, et comment, Gloria Origi? Ah, je crois que nous avons perdu Gloria Origi. Non? Vous êtes avec nous?
Et excusez-moi, j'ai perdu la connexion.
Ah ouais, vous êtes avec nous, c'est bien, c'est parfait. On vous entend très bien depuis la Sicile, allez-y. Sur cette question justement de la réputation, est-ce que votre travail porte sur la réputation? Est-ce que vous pensez que cette affaire Darmanin joue sur cette question-là? Et en quoi réseaux sociaux, débats, discussions dans la société ont quelque chose à voir justement avec la réputation que l'on peut faire à un homme politique comme Gérald Darmanin et sa contestation justement dans l'espace public?
Oui, je trouve, si vous voulez, ce qui me semble évident, c'est que la réputation d'un homme ou d'une femme politique ne suit pas les mêmes lois que sa personne physique. Enfin, donc, même s'il y a une présomption d'innocence qui s'applique à la personne, est-ce que cette présomption d'innocence peut s'appliquer à sa réputation? Enfin, je veux dire, malheureusement, ça, ce n'est pas. Je veux dire, je ne suis pas en train de mettre un jugement de valeur et dire ce qu'il faut faire avec le ministre Darmanin, mais c'est clair que ayant étudié la réputation, on sait bien enfin qu'une atteinte à la réputation c'est quelque chose qui se fixe dans l'opinion publique et c'est très difficile à éradiquer. Donc et j'étais assez choquée par le propos du président Macron sur on n'est pas dans une démocratie d'opinion. On est dans une démocratie d'opinion. Enfin, la scène politique dans une démocratie est le théâtre de l'opinion. Ce n'est pas le théâtre de la connaissance ou de l'épistémé. Et donc l'opinion, il faut en tenir compte. Enfin, donc d'un côté, je veux dire, enfin, c'est qui est le protagoniste, enfin, de ce qui se passe en ce moment. Ce n'est pas Monsieur Darmanin en tant que personne, enfin, peut-être pour laquelle la présomption d'innocence vaut, bien sûr, mais c'est Monsieur Darmanin en tant que la réputation, disons, l'avatar réputationnel de Gérald Darmanin qui est fabriqué à travers les
discours autour de lui, vous voulez dire.
Les discours autour de lui, enfin, et tout ce discours autour de lui qui se cristallise autour de lui, c'est ce que j'appelle dans mon travail la réputation de quelqu'un, c'est une espèce de nuage d'opinion qui se cristallise autour de nous, contribue à rendre légitime ou pas sa nomination à être ministre. Enfin, même si légalement il a ce droit, ce n'est pas un droit, disons, il n'y a aucune obligation de la part du Premier ministre et du Président de la République d'élire une personne dont l'opinion publique est en ce moment cause, de, par exemple, de débats.
Noël Lenoir veut.
C'est peut-être parce que Emmanuel voulait que j'apporte la contradiction, mais je suis désolée, je suis pas du tout d'accord avec vous. Je pense que l'émotion n'est pas un mode de gouvernement d'une société. Je pense qu'accuser quelqu'un de viol, c'est extrêmement grave. Et donc, il faut avoir vraiment des preuves pour porter cette accusation. Et deuxièmement, je ne pense pas que ce soit une question de réputation. Moi, Darmanin, lorsque j'étais déontologue à l'Assemblée nationale, il m'a houspillée politiquement. Parce qu'il pensait que j'étais à gauche, d'ailleurs. Il avait sans doute tort.
Il en a houspillé d'autres. On se souvient de la discussion très vive avec en particulier Christiane Taubira.
Je ne suis pas du tout naïve, parce que j'ai une certaine expérience politique. Je considère que les attaques contre Darmanin sont des attaques contre Emmanuel Macron et qu'elles sont toutes politiques. Sans ça, vous n'auriez pas eu la tribune que vous avez eue contre Darmanin dans Le Monde de la part de Madame Rachida Dati, qui, pour une fois, nous parlait de morale. Ça m'a un tout petit peu fait sourire, mais enfin, c'est ainsi. Je considère que ces attaques sont purement à connotation politique. Darmanin n'avait aucune réputation d'être un coureur ou pas un coureur. D'ailleurs, ça n'intéresse absolument personne. Et moi, je suis juriste et je considère qu'une accusation ne vaut pas la loi. J'ai été diffamée en politique également, pour des raisons politiques. Donc je sais ce que c'est. Et une société où la délation, où la diffamation, où l'accusation sans preuve devient la loi, est une société qui, pour moi, est perdue pour la démocratie. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo.
Je ne veux pas dire que Gérald Darmanin a... Enfin, on n'est pas dans une société où cette personne va être mise en prison sans procès. Arrêtons les exagérations. Il y a un état des droits. Et donc, bien sûr, il y a une présomption d'innocence. Gérald Darmanin a pu même être élu ministre. Mais disons, cette tâche réputationnelle est là. Moi, je ne vais pas dire qu'il faut qu'elle amène à certaines décisions politiques, par exemple.
Mais vous voulez dire qu'on ne peut pas faire sans.
On ne peut pas faire sans. Enfin, ça serait naïf de penser de pouvoir faire ça. Quand on parle de la démocratie à l'anglo-saxonne, ce qui me fait rire, cette expression anglo-saxonne à chaque fois qui existe qu'en France, enfin, si vous parlez.
Ça n'existe pas en Italie, vous voulez dire?
Pas du tout, mais même pas aux États-Unis ou en Angleterre, anglo-saxonne, ça veut rien dire. Enfin, c'est une façon de parler de la pensée de l'autre. Enfin, ce qui est et donc ça veut dire que c'est des politiques peut-être plus cyniques, ce qui existe aux États-Unis en ce moment, mais qui tient compte de l'opinion, enfin, qui tient compte de cette espèce de nouvelle réalité. De la scène publique dans laquelle l'opinion fait partie, le nuage d'opinion qui est autour de nous fait partie, il faut en tenir compte politiquement. Enfin,
ouais. Sur ce point, Éliane Viannot, est-ce que vous pensez que cela entre, comme le dit Gloria Origi, dans un moment, pourrait-on dire, qui est marqué évidemment par MeToo, par les Césars, par Adèle Haenel, par aussi les discussions qu'il a pu y avoir à d'autres moments autour de certains responsables masculins de la politique française, est-ce que vous pensez que tout ça, c'est une phase qui s'est ouverte, qui correspond à autre chose que ce que vous décriviez historiquement tout à l'heure et qui est en profond changement, Éliane Viannot?
Alors en fait, je disais tout à l'heure que nous sommes, de mon point de vue, encore au début d'une remise en cause. Et nous vivons un moment exceptionnel. Enfin, nous vivons un moment où, justement, nous arrivons à remettre en cause le socle, vraiment, une grande partie du socle de la domination masculine en ce moment.
Mais est-ce que... Donc vous considérez, contrairement à Noël Lenoir, que c'est une remise en cause positive, selon vous? C'est-à-dire qu'il y a, dans ce qui est en train de se passer, un mouvement qui est extrêmement libérateur
Moi, je suis très
féministe. C'est-à-dire
que... Je pense que le féminisme doit quand même permettre de conserver un certain sens de l'humanité et de l'altérité. C'est tout le discours que pourrait tenir.
Mais Éliane Viannot. Le problème, c'est qu'il y a en France des milliers de viols par an. Il y a en France des centaines de meurtres d'hommes sur leurs femmes par an. Et que nous sommes face à un déni de justice extraordinaire. Je pense que on commence juste, à part les féministes. Moi, je suis féministe depuis 40 ans, donc je sais qu'on parle de ça depuis longtemps. Mais la société,
depuis 72 ans,
commence juste à se rendre compte du déni de justice énorme qui est fait aux femmes. Alors, mon problème, c'est que je trouve que le problème de la présomption d'innocence, c'est pas le problème. Pour moi, c'est pas le problème. Le problème, c'est la nomination de cet homme à ce poste-là, parce que cet homme-là a reconnu Il ne reconnaît pas la qualification de viol, mais il a reconnu le fait d'avoir demandé des services sexuels contre des services. Et qu'un homme comme ça puisse être nommé ministre de l'Intérieur, ça veut dire une inconscience absolue qui, pour moi, est dans la droite ligne de cette culture dont je parlais, hein, de cette culture qui fait que finalement c'est pas grave. Monsieur Bayrou a été dans une situation un peu semblable. Hein. Il y avait une présomption de détournement de fonds publics. Monsieur de Rugy a été dans une situation semblable. Il y avait une présomption. Je crois qu'il mangeait du homard aux frais de la société, avec nos impôts, un peu trop de homard, mais ces deux délits semblent plus importants, bien plus importants.
Parce qu'ils ont été, parce qu'on les a pas nommés.
Un homme qui a reconnu avoir acheté des services sexuels. Et c'est ça qui fait scandale. Bien sûr qu'il peut y avoir des gens comme Madame Dati ou d'autres personnes qui exploitent le problème. D'ailleurs, c'est pas le premier jour qu'elle est intervenue. C'est bien après. Enfin, elle a eu un certain temps pour réfléchir à la manière dont on pouvait exploiter la chose. Mais il n'empêche que le problème principal, le scandale, il n'a rien à voir avec la couleur politique de Monsieur Macron. Il a à voir avec le fait que les femmes, une bonne partie des femmes n'en peuvent plus de ce déni de justice, et que le fait de nommer à ce poste-là où il devient quasiment intouchable cet homme qui a reconnu
il a dit qu'il avait fait un déport justement de son cas pour justement ne pas être
on n'est pas ici dans un tribunal. Vous n'avez pas plus les éléments du dossier que moi.
Mais j'ai tous les éléments
qu'à la presse. Non, vous n'avez pas plus les éléments du dossier que moi. Moi, le
mais la presse, les amis dehors, on a tous ses aveux.
La justice fera son travail et j'espère qu'elle va juger convenablement. Voilà, c'est
tout. Bien sûr.
Donc,
ça
n'est pas vous ni moi qui allons nous substituer. Moi, j'ai été juge et je considère que le juge doit garder un certain recul, et la législation de la rue et de l'émotion. Moi, je ne crois pas dans l'opinion publique.
Mais vous ne comprenez
pas. Je vais vous raconter une anecdote sur l'opinion publique.
Vous ne comprenez pas la nature de l'émotion.
Si, je la comprends, mais je pense que la justice est là pour médiatiser l'émotion.
Mais vous savez bien que la justice ne fait pas justice aux femmes.
Actuellement, je vais vous parler de l'opinion publique. J'ai été maire d'une petite commune. En 95, je suis allée, pour fêter les 50 ans de la Libération, rechercher les archives. Et j'ai trouvé que les 15 membres du conseil municipal de l'époque, au début de 1944, avaient un message de sympathie et de louange pour le maréchal Pétain. 6 mois après, le même conseil municipal, les 15 membres à l'unanimité, ont adressé le même message, dicté par l'opinion publique. Il y avait simplement, on changeait le mot Pétain par De Gaulle. Donc moi, l'opinion publique, je n'y crois pas. J'ai le souvenir par procuration de ce qui s'est passé pendant la guerre et après la guerre, donc je ne crois pas à l'opinion publique.
Mais c'est pas le sujet.
Je crois au mouvement d'opinion publique, je crois aux excès de l'opinion publique, je crois dans une tentative d'objectivité et de regarder les faits. Et les faits, nous ne les connaissons pas. Nous connaissons ce qui est dans la presse et qui ne sont pas les faits.
Je
ne juge pas autrui sans savoir exactement les faits. Je peux juger des gens, mais pas quand je ne connais pas les faits.
Eliane Viennot, brièvement.
Ouais, moi, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas ce que vous dites, je ne le dis pas, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet est que en France aujourd'hui, il y a des milliers et des milliers de femmes violées qui ne peuvent pas porter plainte, qui ne portent pas plainte parce qu'elles savent qu'elles, vous n'avez qu'à réécouter ce qu'a dit Adèle Haenel, elle avait tout à fait raison, elles savent qu'elles ne seront pas écoutées.
Il y a des dispositions qui ont été prises depuis, tout de même, justement, depuis les déclarations d'Adèle Haenel.
Depuis les dispositions qui ont été prises, tous les jours, si vous vous tenez au courant de ces affaires, tous les jours, on a des contre-preuves que la justice n'est toujours pas formée. Et c'est normal, il faut du temps pour former la justice, il faut du temps pour former
les
policiers.
Et les jeunes garçons.
Il y a toujours aujourd'hui un déni de justice énorme. Et donc, de deux choses l'une, ce président a dit qu'il faisait de l'égalité des sexes une grande cause. Et 2 ans après, on a la nomination au poste quasiment, enfin un des postes les plus hauts du gouvernement, d'un homme qui, normalement, aurait dû être laissé de côté, comme le monsieur de Rugy a été laissé mis de côté, comme monsieur Bayrou a été mis de côté, parce qu'il y avait une instruction en cours. Donc c'est ça le problème. Si vous ne comprenez pas que ce qui fait l'émotion, c'est pas la guerre de 14, c'est pas la guerre de 45, c'est pas le nazisme, c'est pas l'opposition à Macron, c'est le fait qu'il y a un problème majeur en France qui est qu'il faut se mettre à combattre la domination, la violence masculine, et que
mais
pour l'instant,
pas
on
le
n'est
monopole
pas
de
du
ça.
Tout.
Moi aussi, je suis sensibilisée à ça. La postière dans mon village a été tuée parce qu'elle a quitté son compagnon qui n'a pas supporté. Je pense que le vrai sujet, c'est d'éduquer les instituteurs, d'éduquer les travailleurs sociaux qui ne sont pas du tout préparés et les jeunes garçons et les mères qui élèvent ces jeunes garçons.
Et d'ailleurs,
et notamment dans certains quartiers des villes.
D'ailleurs, dans une tribune qui n'est pas dans votre sens, pourrait-on dire, Noël Lenoir, puisque ce sont 20 000 jeunes citoyens et citoyennes de 13 à 25 ans qui exigent la démission de Gérald Darmanin, publiée dans Mediapart hier, et ces jeunes garçons et ces jeunes filles disent « Nous demandons simplement qu'il ne soit pas nommé ministre. Dans l'éducation nationale, si un enseignant est soupçonné de violence sexiste ou sexuelle, la loi dispose que celui-ci peut être suspendu pendant le temps de la procédure judiciaire, ce qui ne porte pourtant pas atteinte à sa présomption d'innocence. Pourquoi notre gouvernement n'implique-t-il pas lui-même aussi ce principe de précaution ?»
Moi, j'ai connu justement l'éducation nationale et d'un laxisme, a été d'un laxisme.
Ne l'est
j'ai
plus.
Connu, si, encore maintenant. Vous avez des attitudes inadmissibles, pas seulement dans l'Église, mais également dans l'éducation nationale. Et je vous assure que c'est très difficile, dans un milieu extrêmement syndicalisé, de toucher à certaines personnes.
Gloria,
je peux en témoigner.
Gloria Origi, vous vouliez intervenir depuis la Sicile.
Non, exactement, oui. oui, donc dans un contexte régional très masculiniste.
Masculiniste, c'est sûr.
L'Italie du Sud, mais c'est vrai que je voulais juste insister sur le fait qu'on n'est pas dans un tribunal. La domination de Gérald Darmanin n'a pas été faite par un tribunal. C'est encore un fait politique. C'est un choix politique. C'est un choix politique qui veut dire des choses, qui fait dire des choses, et donc qui alimente l'opinion publique. Et donc, si ce choix est fait, on peut penser qu'il y a des implications, comme ça émerge dans ce débat. Ce n'est pas un choix neutre. C'est une action politique, et l'action politique est faite pour avoir un impact sur l'opinion. On peut pas se dire il faut se libérer de l'opinion. Les actions politiques sont des actions faites pour avoir un impact sur l'opinion. Alors pourquoi on nomme quelqu'un qui est dans une situation pareille? Enfin, c'est une action politique. C'est une action politique qui veut dire quelque chose.
Et vous voulez dire que puisque c'est une action politique, elle doit être combattue politiquement? C'est ce que font justement les féministes, par exemple, qui protestent
absolument
contre sa nomination, c'est ce que vous pensez?
Absolument, c'est une action politique et qui dit quelque chose d'une position, par exemple, d'une idéologie qui est derrière cette action. Ça veut dire, par exemple, l'idée qu'il y a une espèce de neutralité, de principe de neutralité qu'on c'est dans cette occasion. Et moi, je pense qu'il n'y a pas de principe de neutralité. Enfin, c'est faire un choix politique. Enfin, donc,
vous avez préfacé, vous le rappeliez dans votre article dans Le Monde, Noël Lenoir, Catherine McKinnon, donc, qui est une féministe qui avait écrit La féministe irréductible et qui travaillait aux États-Unis sur la question du harcèlement sexuel. Vous avez préfacé cela aux éditions des femmes en 2004. Vous n'avez pas l'impression d'une tension entre ce que vous avez préfacé en 2004 et maintenant?
Non, je l'ai rencontrée. C'est une femme assez exceptionnelle. Alors, elle a une vision, effectivement, un petit peu radicale, mais très américaine, si je puis dire, des rapports hommes-femmes. Mais ce que j'ai trouvé formidable, c'est que elle a, c'est une juriste, c'est une prof de droit, elle a examiné le droit sous l'angle de la domination masculine, qui est quand même un fait historique, comme l'a dit Madame Viennot tout à l'heure, ça c'est incontestable. Et elle a plaidé, et elle est parvenue à faire reconnaître le harcèlement sexuel comme une expression d'un pouvoir, d'un abus de pouvoir, qu'il soit sexuel ou moral d'ailleurs. C'est l'expression d'un abus de pouvoir. Et aussi, elle a beaucoup beaucoup, beaucoup mis en exergue ce qui est mentionné dans le statut de la Cour pénale internationale, le statut de Rome, le fait que le corps humain, mais pas seulement les femmes, aussi les hommes et les enfants, le viol est devenu une arme. Dans la guerre des Balkans, ça a été absolument épouvantable. Et aussi dans certains pays en guerre actuellement. Et le viol des hommes, je crois qu'il y a 200 000 viols de femmes par an et il y a 46 000 viols d'hommes. Donc je voudrais pas que ce soit uniquement le viol, c'est la négation de l'être humain. Ce n'est pas un problème de sexe, c'est la négation de l'être humain. C'est nier la personne humaine.
Mais en défendant
je pense que ça, c'est un véritable combat. Et ce n'est pas en dégommant Darmanin ou n'importe quel autre ministre, parce que derrière Darmanin, il y aura tous les autres ministres. Hein, parce que personne n'est irréprochable, sauf peut-être vous deux. Moi, je ne suis peut-être pas irréprochable
c'est
non plus.
C'est vraiment une attaque ad féminem. Vous parliez d'attaque ad féminem tout à l'heure, Lenoir.
Mais je dis, j'ai été attaquée aussi, et je sais ce que c'est que d'être politique. Dès que vous êtes politique, vous êtes détesté par la moitié de la population française.
Sur ce point et sur d'autres, Éliane Vineau.
Je voudrais revenir sur ce que disait Noël Lenoir, sur le fait qu'il faudrait former les enseignants, etc. Moi, je parlais tout à l'heure de former le monde de la justice. Le problème, c'est les signes qui sont envoyés. On aurait pu croire ce pouvoir s'il n'avait pas nommé cet homme-là à ce poste-là. Mais vous comprenez bien que nous n'attendons plus du tout que les gens qui doivent être formés le soient correctement. D'une main, il y a des discours, nous allons former, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Et de l'autre main, on se moque complètement. On nomme deux ministres, effectivement, dans le nouveau gouvernement. L'un qui a envoyé les pires signes possibles, comme quoi les féministes sont des folasses. Je ne sais pas ce qu'il a dit, il a employé des mots extrêmement injurieux. Il y a deux jours, il a dit qu'il découvrait les chiffres de femmes en France. Et il a dit qu'il n'y croyait pas, alors que ces chiffres sortent de l'INSEE. Ça fait 20 ans qu'ils sont produits par les meilleurs chercheurs et les meilleures chercheuses de France. Donc, ce sont des signes. C'est ça le problème. On envoie aujourd'hui à la société des signes comme quoi la domination des hommes, ce n'est pas un vrai problème. On en parle, on fait du bruit autour de ça, mais en réalité, on s'en moque, puisqu'on nomme des gens qui ont pris position ou qui ont des affaires en cours sur des problèmes très graves. La justice va dire que finalement, il n'y a pas de problème, mais pour l'instant, il y a une présomption de, non seulement il y a une présomption d'innocence, mais il y a aussi pour lui, je le répète, parce que c'est toute la presse l'a dit, il a reconnu les faits d'avoir acheté des services. Donc,
D'ailleurs, le collectif Pourvoir féministe a saisi le procureur de la République de Lille. Cette présidente du collectif qui s'appelle Anaïs Leleu veut tenter de relancer l'enquête en signalant au procureur ce qu'elle estime être non plus une question de viol, mais un trafic d'influence. Donc, justement, pour échange de services sexuels. Gloria Origi, qu'est-ce que ce débat très animé que nous avons ici dit de notre rapport aux passions sociales sur lesquelles vous travaillez en tant que philosophe, parce que vraiment, on a commencé sur la question du rapport homme-femme, de son histoire, de sa longue histoire en France, et on voit bien qu'il y a quelque chose là qui niche, qui nous intéresse, parce que c'est toujours relancé, et maintenant ça fait des années que ces questions sont relancées. Je vous l'ai dit tout à l'heure, à la fois à la cérémonie des Césars, à d'autres moments, c'est quelque chose qui touche véritablement à l'intimité de chacun, mais aussi aux rapports sociaux entre Françaises et Français.
Écoutez, d'abord, tout le monde a les droits à la présomption d'innocence, mais personne n'a les droits naturels d'être ministre. Enfin, ça veut dire, on peut avoir les droits d'être, mais on a tous ce droit, mais disons, ce n'est pas, on peut remettre en question
une nomination, vous voulez dire.
Pas, absolument. Enfin,
parce que c'est de la politique, comme vous le disiez tout à l'heure, oui.
Parce que c'est de la politique, donc il a les droits d'être de la présomption d'innocence qu'on lui reconnaît, etc. C'est un citoyen libre, etc. Mais il n'a pas un droit naturel à être élu. Enfin, Je veux dire, c'est personne de nous a ce droit naturel à être élu. Enfin, moi, j'aimerais bien avoir le droit d'être ministre.
Il est nommé.
Excusez-moi. Et donc, je veux dire, si sa nomination sollicite des passions justement qui rentrent dans l'opinion publique et qui touchent à des personnes, enfin, en insultant des personnes, enfin, en mettant en blessant des personnes, c'est quelque chose dont on peut se rendre compte et on peut négocier. Enfin, je veux dire, ça
c'est de la politique.
Une intrusion. Moi, je pense que ça, c'est le politique.
Oui, Noël Lenoir.
Moi, j'admets les opinions contraires aux miennes. C'est parce que j'ai une certaine expérience de la politique, à laquelle j'étais sans doute pas trop préparée, que je sais combien ce type d'accusation peut être un élément du combat. Joe Biden a été accusé par les républicains américains d'avoir aussi violé une femme. C'est un peu disparu dans le Covid. Donc je sais ce que c'est que le combat politique et les armes politiques. Ici, ça me paraît un mouvement d'opinion. Je suis féministe et presque culturellement, parce que chez moi, les femmes avaient des positions assez pionnières. Moi, je suis plutôt une suiviste. Et je sais ce que c'est les attaques politiques. Et quand vous dites que vous n'avez plus confiance dans ce pouvoir, on voit très bien que derrière Darmanin, il y a le président de la République. Pour moi, c'est clair. Et c'est clair aussi que ces mouvements féministes, dont je crois, disons, à la bonne foi, sont aussi des mouvements politiques qui sont opposés à la majorité actuelle. Je connais aucun mouvement féministe qui est favorable à la majorité actuelle qui a pris les positions qui sont celles de la pétition que vous avez lue. Donc je pense qu'il y a quand même une très 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 forte connotation politique.
Eliane Viennot, un dernier mot en tant qu'historienne justement pour pouvoir conclure cette discussion animée autour de cette affaire justement du Darmanin, mais également de l'exception française dont elle témoignerait de la façon dont elle perdure dans la société française.
Oui, je pense que aussi bien Madame Lenoir qu'un certain nombre de personnes ou notre gouvernement ne comprend pas du tout dans quelle période on est aujourd'hui. Ne comprend pas, s'imagine que c'est comme d'habitude, tout politique est attaqué, etc., etc. Nous sommes en train de vivre quelque chose qui n'a rien à voir, qui n'est pas lié aux opinions
politiques. Radicalement neuf, vous voulez dire ?
Pardon ?
De radicalement neuf ?
C'est-à-dire le fait que ce qui est jugé en ce moment, ce n'est pas l'opinion politique de Monsieur Darmanin, ce n'est pas l'opinion politique de Monsieur Macron, que les féministes auraient plutôt suivi quand il a commencé par dire qu'il allait faire de son quinquennat de l'égalité entre les sexes une grande cause. Nous l'attendions, nous continuons à l'attendre, mais là on peut plus l'attendre. On a bien vu avec les moyens qui ont été ou l'absence de moyens qui a été donné à Marlène Schiappa que c'était surtout des paroles. Et là, c'est encore pire. Et je trouve que ce que vient de dire Madame Lenoir montre qu'elle fait partie des gens qui n'ont pas compris ce qu'on est en train de vivre et que ça ne va pas s'arrêter là. Non pas parce que tous les hommes vont être accusés d'avoir violé, parce que tous les hommes ne violent pas, mais ceux qui ont violé, ceux qui sont coupables, ceux qui sont poursuivis, ceux qui sont soupçonnés d'être coupables, on va pas les laisser passer. C'est terminé, c'est ça le problème. On est passé dans une autre phase. On a aujourd'hui toute une jeunesse qui ne veut plus de cela, ne veut plus de l'impunité en matière de sexe.
Merci beaucoup. Merci Eliane Viennot. Merci, je rappelle que vous êtes autrice de L'âge de l'ordre masculin. On peut peut-être espérer un autre âge d'or que celui de l'ordre masculin dans nos sociétés aujourd'hui. En tout cas, merci d'avoir dialogué toutes les trois sur cette question difficile et délicate, mais c'était tout à fait intéressant de vous entendre toutes les trois très brièvement. Noël Lenoir.
Moi, je voudrais rendre hommage, puisque je vais lire le livre d'Eliane Viennot, à Eugénie de Montijo, qui est un petit peu... j'ai beaucoup d'admiration pour elle, parce que à la position...
Donc, la position l'impératrice la sienne,
elle
Eugénie.
A fait, l'impératrice Eugénie, moi je l'ai à la bonne. Je la trouve vraiment une femme formidable. J'aimerais bien écrire une biographie sur elle.
Merci Noëlle Lenoir. Merci à vous Eliane Viennot. Et merci beaucoup Gloria Origi. Je rappelle que vous êtes autrice d'un livre au PUF sur la réputation. C'était le temps du débat d'été. Sophie Alavi, Mathilde de Tonfourcade, Pascaline Bonnet, Audrey Dugas, Nicolas Berling à la technique, Jacques Azubert à la réalisation, Anne de Pelchin. Je lui souhaite de bonnes vacances. Merci de nous avoir accompagnés pendant tout ce mois de juillet. Lundi, nous parlerons des ambitions chinoises qui s'opposent aux ambitions chinoises. Et puis sachez que demain, samedi, le magazine du week-end par Julie Dacon. Gacon traitera d'abord de peut-on immuniser les jeunes contre le chômage et ensuite de l'Inde. L'Inde va-t-elle remplacer la Chine dans le cœur des Occidentaux ?